VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 14 octobre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seroudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Tunisie, c'est le raz-de-marée selon les sondages pour le juriste Kais Saied au second tour de la présidentielle de dimanche.
En Guinée, de nouvelles interpellations d'opposants ont été signalées hier à la veille d'une journée de mobilisation contre un projet de révision de la Constitution.
Au Niger, 5 soldats ont été tués pendant le week-end dans une attaque perpétrée dans la région de Tillaberi, frontalière du Mali.
Le Mali, où des actes de saccage et de pillage ont été commis au week-end également, contre l'entrepôt de la MINUSMA à Sévaré, dans le centre du pays.
En Syrie, les Kurdes s'allient à Damas face à l'avancée des forces turques dans le nord-est du pays.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
La Tunisie attend ce lundi le résultat officiel de la présidentielle qui devrait consacrer la victoire écrasante de l'universitaire Kais Saied. Des milliers de Tunisiens sont descendus dans la rue dimanche soir pour fêter la très large victoire de M. Saied, donnée par des sondages, deuxième président élu au suffrage universel en Tunisie, avec plus de 40 points d'avance sur l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. Le point avec Jean-Roger Bion.
M. Saied a remporté plus de 70% des voix selon les sondages, 72,5% selon l'Institut Emerald, 76,9% selon l'Institut Sigma. Immédiatement après la publication de ces sondages en fin de soirée, des milliers de personnes se sont rassemblées sur l'avenue Bourguiba, dans le centre de Tunis, klaxonnant, lançant des youyou et chantant l'hymne national. Kais Saied a remercié les jeunes qui ont, selon lui, ouvert une nouvelle page de l'histoire lors d'une brève apparition devant ses partisans et la presse dans un hôtel. « Je vais porter le message de la révolution de 2011 », a-t-il lancé. Son rival Nabil Karoui a déploré un déni de justice, estimant avoir été pénalisé par son incarcération durant 49 jours en pleine campagne électorale. Pour ce troisième scrutin en un mois, la participation a été nettement plus élevée qu'au premier tour, atteignant 57,8% avec seulement 70% des bureaux pris en compte. Pour le premier tour, le 15 septembre, moins d'un électeur sur deux s'était déplacé. Le parti d'inspiration islamiste Ennahda arrivait en tête des législatives du 6 octobre avec 52 sièges au Parlement sur 217 à appeler ses partisans à se rendre dans le centre de Tunis pour fêter la victoire de Kais Saied.
En Guinée, des opposants à un troisième mandat du président Alpha Condé, qui sont accusés par la justice de nuire à la sécurité publique, ont été interpellés dimanche pour la deuxième journée consécutive à Conakry. Et le Front National pour la Défense de la Constitution, une coalition de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile, a appelé les Guinéens à sortir dans la rue dès ce matin à 6 heures. Cette coalition dénonce avec véhémence un projet de révision de la Constitution évoqué par le pouvoir qui permettrait au président Condé, qui est âgé de 81 ans, de se présenter fin 2020 pour un troisième mandat. Il ne peut pas en faire plus de deux. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition.
Retour maintenant sur la manifestation qui a dégénéré samedi dans la ville de Sévaré, région de Mopti au Mali, où plusieurs protestataires ont saccagé et pillé l'entrepôt de la MINUSMA. Un couvre-feu nocturne est en vigueur jusqu'au 20 octobre, nous dit notre correspondant Kassim Traoré.
Depuis quelques jours, des manifestations sont organisées à Mopti-Sévaré. La première était celle d'une organisation de la société civile appelée Plateforme Fasoko. Elle a organisé une marche pour demander le départ des forces étrangères. Le vendredi dernier, les épouses des militaires ont également bâti les pavés pour dire non à l'envoi de leur mari au front. C'est au deuxième jour de la manifestation des femmes militaires au niveau du camp de Sévaré, où elles protestaient contre l'envoi de leur époux, que des individus se sont dirigés vers les entrepôts de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA. Les manifestants ont vandalisé des magasins et conteneurs qui se trouvaient sur les lieux. Les jeunes filles et garçons ont emporté tout ce qu'ils pouvaient prendre. Dans un communiqué, l'AMINISMA a indiqué que les manifestants s'en sont pris à plusieurs dizaines de conteneurs de stockage situés à l'extérieur du camp. Aussitôt informé après les événements, le gouverneur de la région de Mopti s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Dans un communiqué, il annonce l'instauration d'un couvre-feu de 18h à 6h du matin du samedi 12 octobre jusqu'au dimanche 20 octobre prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Niger, 5 soldats ont été tués pendant le week-end dans une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés. L'attaque a eu lieu samedi dans le département d'Abala, région de Tillabéri, frontalière du Mali. Elle a visé une patrouille du groupe d'action rapide et d'intervention de la gendarmerie nationale. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Aucune autorité n'a encore communiqué sur l'attaque. Selon des sources locales, les 5 gendarmes ont perdu la vie après que des hommes armés embusqués dans les champs des alentours du village de Abaré aient ouvert le feu sur eux. Un de leurs véhicules a été incendié et l'arme que portait un autre a été emportée par les assaillants qui sont repartis vers le nord côté frontière malienne sur une quarantaine de motos. Un militaire et un civil ont également été blessés. Situé à une soixantaine de kilomètres de la frontière malienne, Abala est un des départements de la région de Tillabéri mis sous état d'urgence par le gouvernement. Depuis quelques mois, sa partie nord est devenue une zone de forte activité de groupes djihadistes, selon les experts. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Au Soudan, les pourparlers de paix entre Khartoum et les rebelles du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil Bleu doivent reprendre ce lundi à Djouba, capitale du Sud-Soudan, en présence du Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok. C'est ce qu'on a appris dimanche de sources officielles sud-soudanaises. En novembre 2018, le président sud-soudanais Salva Kiir, qui venait quelques semaines auparavant de signer un nouvel accord de paix avec son rival Riek Machar, avait offert sa médiation dans les pourparlers entre Khartoum et son opposition armée.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a déclaré dimanche qu'il tiendra en Russie des pourparlers avec le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed au sujet du barrage sur le Nil qui pourrait entraver l'approvisionnement en eau côté égyptien. M. Sissi, qui s'exprimait lors d'une conférence télévisée au Caire, a évoqué l'impasse entre les deux pays au sujet du grand barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu en Éthiopie. Les dirigeants du continent africain doivent assister à un sommet Russie-Afrique fin octobre à Sotchi, alors que l'Égypte assure la présidence tournante de l'Union africaine.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les Kurdes de Syrie, qui se disent lâchés par Washington, ont annoncé hier soir avoir conclu un accord avec Damas pour le déploiement de l'armée syrienne dans le nord du pays, et ce afin de s'opposer à l'avancée rapide des troupes turques et de leurs alliés. Bagessikoura.
Il y a le régime de Bachar al-Assad qui entretient des rapports tendus avec la minorité kurde, mais qui a dénoncé l'opération d'Ankara, annoncé l'envoi de troupes dans le nord pour affronter, je cite, l'agression turque. Peu après, les Kurdes qui ont instauré ces dernières années une autonomie de facto sur de vastes régions du nord et du nord-est syrien ont dit avoir conclu un accord avec Damas pour un déploiement de l'armée syrienne près de la frontière en soutien aux FDS, les forces démocratiques syriennes dominées par les YPG. L'offensive turque lancée il y a 5 jours à la faveur d'un retrait américain et malgré de vives critiques internationales vise à instaurer une zone de sécurité de 32 km de profondeur pour séparer sa frontière des territoires contrôlés par les unités de protection du peuple YPG, une milice qualifiée de terroriste par Ankara. L'offensive turque a provoqué un tollé international, partenaire de longue date des Occidentaux dans la lutte contre le groupe État islamique. Les FDS ont accusé l'Amérique de Donald Trump de les avoir abandonnés en retirant lundi dernier des soldats de zones frontalières, puis en annonçant ce dimanche le retrait de près de 1 000 soldats du nord syrien.
Hunter Biden, dont les activités professionnelles en Ukraine ont mis la campagne présidentielle de son père Joe Biden en porte-à-faux, est sorti de son silence dimanche pour faire baisser la pression sur l'ancien vice-président américain, candidat à l'investiture démocrate. Son avocat a annoncé le départ prochain du jeune Biden du conseil d'administration d'une entreprise chinoise, un poste qui lui vaut ainsi qu'à son père des accusations continues de corruption de la part du président Donald Trump qui n'a pas fourni de preuves. Dans son communiqué, l'avocat a écrit « Hunter a entrepris ses activités de manière indépendante. Il estimait qu'il n'aurait pas été approprié d'en discuter avec son père et il ne l'a pas fait. »
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Guinée équatoriale devrait annoncer en novembre les gagnants d'une nouvelle vente aux enchères de licence qui comprendra le projet gazier Fortuna et le bloc R. Ce dernier est l'un des 27 blocs que le pays a proposé dans le dernier cycle et qui comprend pour la première fois des offres pour l'exploration minière. Seuls 17 de ces blocs comprenant des prospections en eau profonde et ultra profonde seront attribués. Le gouvernement nigérien veut lancer un processus de préqualification pour sélectionner des co-contractants pour le projet régional d'interconnexion électrique dorsale nord reliant le Nigeria, le Niger, le Bénin et le Burkina Faso. Les compagnies préqualifiées pourront soumettre leurs propositions pour construire sur 104 km une ligne électrique de 330 kV reliant la localité de Gorou-Banda et la frontière Niger-Burkina Faso. Les intéressés ont jusqu'au 26 novembre pour faire parvenir leur dossier de candidature. L'appel d'offres proprement dit est prévu pour être lancé en décembre. Le Niger bénéficie d'un appui financier de 567 millions de dollars alloués par la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Pour terminer, Madagascar a lancé le programme de financement des risques de catastrophes en Afrique, conduit par la Banque africaine de développement, publie l'agence ECOFIN. Dotée d'une enveloppe de 4 millions d'euros, l'initiative a pour objectif de renforcer les capacités nationales malgaches en termes d'évaluation des risques de catastrophes et de mise en place de systèmes d'alerte précoce.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football, le tournoi de l'UFOA a rendu son verdict hier à Thiès au Sénégal.
Oui, et le pays hôte, le Sénégal a remporté le trophée grâce à sa victoire au tir au but 3-1 en finale face au Ghana, le tenant du titre, dans l'autre finale dénommée plate. La Guinée est sortie vainqueur devant le Cap-Vert, toujours au tir au but 4-3 après un match nul 0-0 au terme des prolongations.
On jouait aussi les préliminaires retour de la CAN 2021.
Le Tchad s'est qualifié pour la phase de groupe de ces éliminatoires en écartant le Libéria au tir au but, tout comme la Gambie face à Djibouti. Qualification également du Soudan du Sud, deux fois vainqueur des Seychelles et de Sao Tomé face à l'île Maurice. Dans un mois, la phase de groupe de ces éliminatoires débutera avec les journées 1 et 2 programmées entre le 11 et le 19 novembre.
Les équipes qui ne sont pas concernées par ces éliminatoires s'affrontaient en match amical.
Et à Porte Novo, le Bénin a été accroché par la Zambie, score 2 buts partout. Les écureuils ils sont revenus deux fois au score dans un match difficile, reconnaît le milieu de terrain béninois Tijani Anan.
Oui, ça n'a pas été facile. C'était donné comme objectif de ne pas perdre parce que nous sommes chez nous. Quelle que soit la situation du match, on devait revenir au score. Mais vous avez vu, malgré que le pénalty manqué, on a encaissé le deuxième but et on a fait tout pour revenir au score. Donc c'est toujours le même objectif qui continue. On a à cœur de rendre fier le peuple béninois et on veut tout donner pour que le peuple il soit fier de nous et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés ensemble.
Pour les autres matchs disputés hier, notons la belle victoire de la Côte d'Ivoire 3-1 devant la RDC. Victoire également de l'Afrique du Sud 2-1 face au Mali. L'Ouganda a assuré en Éthiopie 1-0, tandis que le Kenya s'est incliné à domicile face au Mozambique. Et puis, comme le Sénégal, le Nigeria a accroché le Brésil un but partout. Un match amical qui a vu Neymar sorti sur blessure.
Élisez, la séquence de ces matchs amicaux se poursuit.
Oui, et aujourd'hui, l'Égypte joue, le Botswana au Caire, le Rwanda et la Tanzanie s'affrontent à Kigali. Et demain, l'Algérie sera face à la Colombie à Lille. La Guinée jouera le Chili en Espagne. Le Maroc va défier le Gabon à Tanger. Et puis, la Mauritanie va croiser la Libye à Nouakchott.
Handball avec la Coupe d'Afrique des clubs champions qui a eu lieu à Dakar, au Sénégal.
Oui, et chez les hommes, c'est Zamalek qui garde son bien en venant à bout 33-31 de l'autre club égyptien Soumoura. Finale 100% angolaise au niveau des dames avec le sacre de Primero do Agosto devant Petro Atletico, score 18-16. Et puis, volleyball pour finir. La Tunisie a remporté son premier match en 9 rencontres durant la Coupe du Monde au Japon. Les Aigles de Carthage sont venus à bout des Égyptiens, second représentant africain dans cette compétition, score 3-7-1.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, les opposants au troisième mandat appellent à des manifestations ce lundi partout dans le pays. Les sages, au nom des coordinations régionales, ont demandé au Front national pour la défense de la Constitution de sursoir à des manifestations et d'aller au dialogue avec le pouvoir de Conakry. Par ailleurs, une enquête de police judiciaire a permis l'interpellation de plusieurs individus accusés par le procureur de la République de tenir des propos d'une gravité certaine contre la sécurité publique. Le point avec Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry.
Au moins 8 personnes, membres du Front National pour la Défense de la Constitution, sont interpellées samedi à Conakry. Parmi elles, le coordinateur du mouvement, Abdourahmane Sano. Mais des arrestations qui ne semblent pas dissuader les organisateurs des manifestations de rue. C'est le Dalen Diallo, chef des files de l'opposition, et Sidia Touré, président de l'UFR, se sont adressés à leurs militants respectifs samedi à Conakry.
Nous allons mener le combat pour libérer la Guinée de la division, pour réconcilier le fils de ce pays.
Les leaders de l'opposition, qu'on soit bloqué, qu'on soit arrêté, qu'on soit je ne sais quoi, le lundi, le peuple de Guinée doit se manifester.
Plusieurs partis d'opposition, membres du FNDC, dont l'UFDG de cellule d'Alain Diallo, ont suspendu la participation de leurs députés aux travaux de l'Assemblée nationale. Dembo Sila, porte-parole des députés protestataires.
Considérant la violation systématique de la Constitution et des autres lois de la République par le gouvernement et sa majorité parlementaire, en violation flagrante de la Constitution en vigueur, de ceux qui précèdent, les députés des partis ci-dessus énumérés décident de suspendre leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale.
Dans son appel à manifester, le FNDC demande aux Guinéens de protester contre le troisième mandat partout et dans tout le pays. Mais pour certains, comme ce commerçant, cela ne sera pas sans conséquences.
Je veux que les commerçants guinéens soient protégés, qu'il ait leurs activités commerciales. Il ne faut pas que vous laissez votre boutique fermée. Allez-y sur le terrain, ouvrez les boutiques et vendre. Parce que si vous laissez les boutiques là fermées, les gens peuvent profiter pour essayer de gâter le magasin. Il faut que vous soyez là. Ce n'est pas le pouvoir qui vous a donné cet argent, ce n'est pas les opérants qui vous ont donné cet argent que vous avez. Vous avez cherché. Donc pour avoir une économie, c'est difficile. Mais pour gâter, c'est très facile.
Les militaires seront consignés dans leur caserne à partir du 14 octobre et des contrôles physiques seront effectués par les commandants d'unité avec compte rendu à l'état-major général des armées de leur situation de prise d'armes. Les militaires sont interdits de se confondre à tout mouvement de foule selon l'état-major général des armées. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Il était environ 12 heures. C'est à ce moment.
En plus de nos programmes.
Eh bien, nous nous excusons de cet incident technique. Le Mali à présent, l'entrepôt de la MINUSMA à Sévaré, a été donc saccagé et pillé samedi lors d'une manifestation qui a dégénéré en de tels actes de violence. Nous retrouvons notre correspondant sur place, Mamoudou Bokoum.
Il était environ 12 heures. C'est en ce moment que l'on assiste à cet acte de vandalisme et de pillage à l'entrepôt de la MINUSMA à Sévaré. Ces auteurs, des jeunes venus d'un peu partout, ont profité d'une manifestation des épouses des militaires pour s'adonner à ces actes. Des conteneurs défoncés, climatiseurs, matelas, des fils d'électrification, des cuivres ainsi que d'autres matériels et même des papiers hygiéniques ne sont pas épargnés. Ce n'est pas tout. Ces pillards, déterminés à tout emporter, ont mis également du feu à l'entrepôt. Le bilan de l'incendie est lourd. Deux camions et certains conteneurs sont réduits en cendres. Heureusement, les sapeurs-pompiers ont pu contenir le feu. Le gouverneur pointe du doigt certains instigateurs.
Les jeunes sont sortis. Bon, il y a beaucoup d'explications. Ils sont sortis. Il faut une cause. Il y a eu une cause et par la suite, ça s'est dégénéré. Parce que les gens sont là avec leur point de vue. Et il y a des gens qui sont tapis dans l'enveloppe, qui ont profité de cette occasion pour nous amener là où on est aujourd'hui. Et là, c'est vraiment regrettable.
Au niveau du camp, on nie totalement l'implication des épouses des militaires. Une de leurs responsables précise qu'elles sont venues pour calmer le jeu.
Nous avons eu un accord avec le colonel. Il nous a délégués pour venir calmer le jeu. Malheureusement, nous n'avons pas pu maîtriser la foule, mais nous avons récupéré quelques matériels.
Est-ce que vous étiez au courant que les gens se dirigeaient là-bas?
Pas du tout. Nous n'étions pas au courant de cela. Nous avons fait notre manifestation au camp et nous nous sommes limités là. On ignorait celles qui étaient dehors. On a même demandé aux femmes de libérer la porte du camp puisque la marche était finie. On n'était vraiment pas au courant qu'au dehors, les gens marchaient.
Une réunion d'urgence a eu lieu ce dimanche pour éviter une telle situation dans le futur. Et la présidente de la coordination régionale des organisations de la société civile appelle les gens au calme. Madame Diallo Tatatouri.
Chacun de nous ayons du retenue parce que ne voyons pas ces forces onusiennes comme des ennemis. Nous avons nous aussi des frères et des sœurs qui sont dans les forces onusiennes dans d'autres pays. Si on les maltraite comme ça, est-ce que nous, ça va nous plaire? Ils sont venus pour le maintien et la stabilité. Donc, comprenons ça et vraiment, donnons-nous la main pour leur rendre cette opération de stabilisation plus facile. Sinon, comme ça, ça ne peut pas aller.
Face à la situation, des enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. En attendant d'avoir les résultats de ces enquêtes, le chef de l'exécutif régional a décrété un couvre-feu à Sévaré de 18h à 6h du matin et du 12 au 20 octobre 2019. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Congo-Brazzaville, une plateforme d'ONG locale a déposé au parquet de la capitale une plainte contre Denis Christel et Claudia, deux enfants du président Denis Sassou Nguesso. Elle les soupçonne de détournement de fonds, de blanchiment d'argent et de corruption. Cette requête fait suite aux révélations faites il y a quelques mois par l'ONG britannique Global Witness. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin fait le point.
Ils étaient une dizaine d'activistes au secrétariat du procureur de la République pour déposer leur requête contre les deux enfants du chef de l'État pour des faits de détournement présumés de fonds. Vu les personnes visées, le parquet a longtemps hésité avant finalement d'enregistrer la plainte. Mais que cherchent à démontrer les ONG par cette démarche ? Trésor Ntila Kende, directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
La loi congolaise dit que le procureur de la République reçoit des plaintes et des dénonciations et donne la suite légale à tout ça. Nous avons appris des faits extrêmement graves de détournement de fonds publics et dans un contexte social délétère. Il ne s'agit pas des premières révélations, il y en a eu plusieurs. Et cette fois-ci, nous nous sommes dit qu'on ne peut pas garder silence. Il fallait bien qu'on interpelle les pouvoirs publics afin de faire la lumière sur ces révélations qui sont extrêmement graves.
Contrairement à sa stratégie habituelle d'agir en présence du public, la plateforme d'ONG s'est plutôt discrètement glissée au parquet de Brazzaville. Les attentes sont fixées à la décision du procureur de la République s'il ouvrirait ou non une enquête judiciaire à ce sujet. Joe Washington Ebina, président du FULD, était de la partie.
Nous restons confiants sur le fait que ces accusations viennent d'une organisation très sérieuse, reconnue à travers le monde. Maintenant, au niveau du Congo, nous espérons simplement que le travail sera fait. Mais au moins, les populations sont bel et bien informées que les organisations sont dans la recherche de la vérité. Et la recherche de la vérité devrait mettre tout le monde en paix. Voilà simplement ce que nous recherchons.
La démarche des ONG locales est une première dans le pays, si bien que très peu de gens lui donnent une chance d'aboutir. L'analyse du juriste Christian Rudy Bouanga.
Voilà des citoyens congolais qui ont intérêt à agir du fait, n'est-ce pas, de l'objet de leur ONG, qui sont libres d'aller saisir le parquet de la République, se constituant partie civile pour avoir dénoncé certains faits. Ok, ils sont dans leurs droits. Maintenant, quelle suite leur sera réservée? La composition de cette juridiction de jugement, n'est-ce pas, s'interrogera sur les éléments de preuve mis à leur disposition. Mais vous comprenez avec moi que ces éléments de preuve brillent par leur nullité. Ils sont vides de tout contenu. Toutes les déclarations faites par Global Witness sur les soupçons de corruption, de détournement ou de blanchiment d'argent portés contre certains citoyens congolais, régulièrement revient le mot « apparemment il y aurait eu, vraisemblablement il y aurait eu ».
En avril et août dernier, l'ONG britannique Global Witness avait publié des rapports incriminant la fille et le fils du chef de l'État d'avoir détourné et utilisé des fonds publics à des fins personnelles. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Cameroun, certaines entreprises utilisent de plus en plus des matières premières locales dans le secteur agroalimentaire. Un choix encouragé par le gouvernement qui veut par là réduire le déficit de la balance commerciale du pays. De Yaoundé, Emmanuel Jules Tap.
Le blé, l'huile de palme, le sucre, le maïs, le malt, le soja ou encore le tourteau de soja. Autant de produits agricoles qui entrent dans le processus de production des industries du secteur agroalimentaire au Cameroun. Ces produits achetés à l'extérieur ont situé le déficit de la balance commerciale du pays en 2018 à plus de 1 438 milliards de francs CFA, d'après le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire.
Nous sommes dans un nouveau contexte de crise des devises qui fait en sorte que l'accès à ces devises pour l'importation des intrants devient de plus en plus problématique.
Isaac Tamba est le directeur général de l'économie, de la programmation des investissements publics au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire.
Depuis février dernier, il y a une nouvelle réglementation d'échange au niveau de la zone BA qui impose des plafonds dans le cas d'importation de certaines denrées. Et pour éviter justement que les agro-industries n'aient le dos au mur parce qu'elles seront dans les capacités d'assurer leur production et de satisfaire la demande locale et la demande régionale, nous voulons leur faire savoir qu'il y a des produits substituts sur le plan local. Par exemple, pour la farine de froment, qui chaque année coûte environ 250 à 300 milliards de francs CFA d'importation, nous leur disons qu'il y a des équivalents locaux sous forme de farine de manioc, sous forme de farine de patate, et pourquoi pas de farine de pommes de terre.
Dans l'une des sociétés brassicoles du Cameroun, l'on n'a pas attendu la crise des devises pour introduire des intrants agricoles locaux dans la fabrication de certains produits. Steve Oyono Lemva, responsable des relations publiques des brasseries du Cameroun.
Il y a 10 ans, lorsque l'entreprise a commencé à parler d'utilisation de matériaux locaux, on était à pratiquement 5%. La bonne nouvelle aujourd'hui, l'entreprise a 60% d'utilisation des intrants locaux. Nous avons une bière, 100% de ce sorgho vient du Cameroun.
Les communautés d'agriculteurs, les centres de recherche en agronomie ont été mis à contribution pour promouvoir l'utilisation des intrants agricoles locaux par les agroalimentaires. Par exemple avec le soja, qui entre dans la fabrication de produits laitiers. Omer Nzuiko, directeur industriel de la société Camlé.
Au début, on importait la totalité de notre soja, mais avec le temps, on a travaillé avec l'Irak pour développer les agriculteurs au nord et actuellement, 100% de notre soja vient du Cameroun.
Cependant, la disponibilité en quantité suffisante de ces intrants locaux fait encore problème, tout comme leur inadaptation aux besoins technologiques des grandes industries, des contraintes qui interpellent le gouvernement. Isaac Tamba, directeur général de l'économie et de la programmation des investissements. Public.
Le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour amener cette offre à des niveaux de consommation compatibles avec les capacités de production des agro-industries.
Le Cameroun n'a pas encore d'unité de transformation de pointe. Des produits comme le poivre, l'oignon, le persil, l'amidon ou encore l'ail, des intrants importés exclusivement par des grandes industries locales. Yaoundé, Emmanuel Jolouta, VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou.
politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.